Chapitre 2. Pendant un an, ce thème défraya toutes les conversations. Madame Beaujenier ruinerait-elle le marquis de Rudemont? Se cacherait-il assez bien à l'étranger pour que le capitaine Beaujenier ne fît pas valoir ses droits de mari? Denise serait-elle religieuse? Monsieur de Carquebute vendrait-il en détail le château de Rudemont? Chacun avait son hypothèse qu'il défendait et arrangeait conformément aux inspirations de son caractère. « Moi, je ferais cela si j'étais à la place du marquis. Moi, j'agirais ainsi. » Il n'y avait pas que les bavards et les curieux qui agitassent ces questions pour le plaisir de parler. Le départ du marquis et sa ruine possible avaient donné l'éveil à des espérances intéressées. Jusqu'à ce moment, on s'était habitué à considérer dans le pays la terre de Rudemont comme une propriété indivisible qui, à la mort du marquis, passerait entre des mains jalouses de la conserver dans son entier. Sans doute, c'était là une idée bien désagréable pour les petits financiers, pour les paysans enrichis qui étaient possédés par la fièvre de la propriété. Mais enfin, on s'était fait à cette idée, c'était une fatalité qu'on subissait, en se contentant de jeter un œil d'envie sur ces bois, ces champs, ces herbages, qui, divisés, feraient la commodité et le bonheur de tant de gens. Mais le départ du marquis avait mis fin à cette résignation. Les convoitises, jusque-là platoniques, s'étaient précisées en prenant un côté pratique. Chacun avait fait son choix. Celui-ci aurait telle ferme, celui-là telle pièce de terre. On s'était entendu pour ne pas se faire concurrence, et quand il avait été impossible d'avoir seul ce qu'on désirait, on s'était mis d'accord pour partager. Lotissement, échange, avec ou sans soulte, tous les moyens admis par la loi pour le partage et la division des immeubles avaient été mis en œuvre. Dans les foires, dans les marchés, le soir au café, en buvant des mocks et des glorias, on discutait l'affaire et chaque jour, le cadastre de l'arrondissement de Condé-le-Châtel était bouleversé. Les notaires, les receveurs de l'enregistrement, les conservateurs des hypothèques se frottaient les mains, ce qui, chacun le sait, est le signe avant-coureur d'une fortune prochaine. Mais c'était le dimanche surtout que cette fièvre prenait un caractère d'intensité tout à fait caractéristique. Alors, dans les cours plantées de pommiers, dans les herbages, dans les prés à faucher, on rencontrait des paysans endimanchés qui marchaient à grands pas lents et réguliers, en long et en large, pour mesurer la pièce de terre qu'ils convoitaient. Puis on les voyait s'arrêter et, les mains dans les poches, regarder attentivement autour d'eux. Sous leurs chapeaux bien lustrés, dans leurs cols de chemise qui leur sciaient les oreilles, leur figure, qui avait la couleur du cidre doux, prenait une expression de béatitude. Dans un an, dans 6 mois, tout cela leur appartiendrait. Ici, ils bâtiraient un pressoir, là, une étable à cochons. Mais si un nouveau venu survenait, la béatitude était aussitôt remplacée par une indifférence affectée. On allait au-devant de lui et, la main dans la main, on causait de choses et d'autres. « Il y aura des pommes ?»« Peut-être bien. Ce n'est pas que le cru d'ici soit fameux, mais l'année est bonne. » Dans les bois, on trouvait des charrons, des charpentiers qui, un mètre brisé à la main, prenaient la circonférence des arbres à leur convenance. Chacun aurait sa part, tout serait vendu. Et ces philosophes pratiques, au lieu de jeter la pierre à Madame Beaujenier, ne se faisaient aucun scrupule de déclarer tout haut que ces femmes-là avaient du bon. Ceux qui avaient des idées générales sur la marche de l'humanité démontraient même d'une façon brillante que ces femmes accomplissaient en ce monde une mission civilisatrice. Mais, au bout d'un an, la curiosité, qui commençait à se fatiguer de ressasser toujours les mêmes idées, trouva un aliment nouveau, solide et résistant, dans le récit qu'un jeune avocat de Condé rapporta de l'Italie au retour des vacances. En faisant l'ascension du Vésuve, il avait rencontré le marquis de Rudemont et Madame Beaujenier. Bien qu'il connût parfaitement le marquis pour avoir été reçu plusieurs fois au château avec Louis Mérot, son ami, il avait cru devoir, par discrétion, ne pas les saluer. Mais le marquis était venu au-devant de lui et, d'une façon qui ne permettait pas le refus, il avait invité à passer une journée dans une villa de Sorrente qu'il habitait depuis 3 mois. Cette journée, il avait passé dans l'intimité du marquis et de Madame Beaujonnier, que les domestiques appelaient Madame la Marquise. Elle et le marquis avaient beaucoup parlé de Rudemont et de Condé. Le marquis surtout, qui s'était affectueusement inquiété de Louis, de sa position présente et de son avenir. Ni l'un ni l'autre n'avaient manifesté l'intention de revenir en France, et leur installation à Sorrente paraissait indiquer qu'ils voulaient faire un long séjour en Italie. Le marquis était passionnément épris de l'ex-institutrice. Son amour se montrait en tout, dans ses regards, dans ses paroles, dans la tendresse qu'il lui témoignait, tendresse où la soumission se mêlait au respect. La beauté de Madame Beaujonnier était en progrès. Elle avait pris un calme et une plénitude qu'elle n'avait pas autrefois à Rudemont, au temps où, dans toute son attitude, il y avait quelque chose de volontairement effacé et d'ondoyant. Quant au marquis, il avait singulièrement vieilli. Ses cheveux étaient gris, il avait engraissé, mais d'un mauvais embonpoint, flasque et bouffi. Lui, autrefois si droit, se tenait voûté. Après le dîner, il s'était endormi à table d'un sommeil lourd, avec le visage empourpré, comme s'il allait être frappé d'un coup de sang. On comprend que ces nouvelles avaient réveillé l'attention lassée. La lecture des journaux avait expliqué les raisons pour lesquelles le marquis ne s'entourait plus des précautions qu'il avait cru devoir prendre en Angleterre. Sous la rubrique des tribunaux, on avait lu le compte-rendu du procès en escroquerie intenté par le parquet au directeur de la fortune publique. Le capitaine Beaujonnier, gérant de cette maison, qui, pendant plus d'un an, avait rempli la quatrième page des journaux de ses annonces pompeuses, s'était très bravement défendu. En soldat qui n'a peur de rien, le ruban rouge à la boutonnière, il avait tenu tête au ministère public, prétendant démontrer qu'il n'avait eu qu'un rôle très secondaire dans cette entreprise. On avait abusé de sa franchise militaire, de sa bonne foi, et des gens d'affaires habiles et retors l'avaient roulé, lui, l'honnête homme, simple et loyal. Il était la première victime des escrocs auprès desquels il avait la honte de s'asseoir sur les bancs de la police correctionnelle. Malheureusement, ce système de défense n'avait point ébloui ses juges. Ces misérables Robins avaient eu le cœur de condamner à la prison un brave militaire, coupable tout au plus de négligence. C'était cette prison qui avait permis au marquis d'avouer hautement sa liaison avec Madame Beaujonnier. Tandis que le capitaine fabriquait des chaussons de lisière à Melun ou à Poissy, il n'avait rien à craindre de ce mari peu scrupuleux, mais encore plus maladroit. Plus tard, il serait temps d'aviser. Ce plus tard avait été une douche d'eau froide jetée sur les espérances de ceux qui voyaient déjà des grandes affiches jaunes placardées sur tous les murs pour annoncer la vente du domaine de Rudemont avec le château, les terres, les bois et les dépendances. Si elle s'était ostensiblement établie auprès du marquis, cette Madame Beaujonnier, disaient les têtes fortes, n'avait pas besoin de le ruiner. Elle n'avait qu'à se faire instituer légataire universel et à attendre l'ouverture de la succession. Dans ce cas, la licitation aurait-elle lieu? La question était douteuse. Et ce qui la rendait plus obscure encore, c'était que le marquis ne faisait pas le moindre emprunt hypothécaire. On avait été jusqu'à requérir des états d'inscription au bureau des hypothèques et l'on avait eu la preuve que le marquis ne s'endettait pas. Il vivait avec ses revenus. Quelle platitude! Alors, les philosophes qui avaient applaudi à la mission civilisatrice exercée par Madame Beaujonnier avaient changé de langage. Comment? Elle vivait bourgeoisement avec le marquis, elle ne le ruinait pas? La poésie était donc morte. Comment? La terre de Rudemont ne serait pas licitée, morcelée, fondue au feu des enchères? Elle passerait entière aux mains de cette aventurière? Ce serait scandaleux. Les lois de la morale, aussi bien que celles de l'économie politique, s'y opposaient. Il importait à la fortune du pays que la terre de Rudemont ne restât pas improductive dans des mains débiles. Pendant plusieurs mois, ce fut sous ce point de vue qu'on traita la question. Et l'on discutait toujours, sans grand espoir de la voir faire un pas en avant, lorsque le maître de l'hôtel du Bœuf Couronné, qui était en même temps loueur de chevaux, reçut une dépêche qui, en quelques instants, fut connue dans toute la ville de Condé. Par cette dépêche datée de Paris, le marquis de Rudemont commandait une calèche pour l'aller attendre à l'arrivée du train du soir et le conduire au château. Il revenait donc, le marquis, seul ou avec sa maîtresse. Volontiers, on eût été l'attendre à la station afin de savoir à quoi s'en tenir. Heureusement, le docteur Gillet, qui se trouvait dans ce train du soir, put satisfaire la curiosité vivement surexcitée. Comme on causait au cercle de l'affaire du marquis, sans pouvoir se mettre d'accord, les uns soutenant qu'il revenait avec sa maîtresse, les autres, au contraire, prouvant par raison démonstrative qu'il était impossible qu'un homme bien pensant comme le marquis donnât à la province l'exemple d'un pareil scandale, le docteur Gillet, qui survint au moment où la discussion s'échauffait, intervint pour trancher la difficulté. « J'ai voyagé avec monsieur le marquis de Rudemont, » dit-il doucement en souriant. À ce mot, il se fit un silence, troublé seulement par quelques chutes énergiques. « Ne nous faites pas languir, » dit une nature nerveuse. « Est-il seul ?» demanda une autre. « Il est accompagné de deux domestiques, Valérie, son valet de chambre, et un Italien. « Ah ! Et de plus, » continua le docteur Gillet, « il a avec lui Madame Beaujonnier. » « Je vous le disais bien. C'est impossible. » Ce fut un feu croisé d'exclamations. Le silence ne se rétablit que quand le docteur Gillet ajouta que, selon lui, le marquis était dans un état de santé tout à fait inquiétant. Face à apoplectique, taille voûtée, main tremblante, lèvres inférieures pendantes, œil éteint. Il ne peut marcher qu'en s'appuyant sur le bras de son valet de chambre, qui, de temps en temps, le redresse. Déjà, à ce que j'ai cru comprendre d'après les paroles entortillées de la petite dame, il a eu une attaque en Italie. Pour moi, c'est un homme fini. Ce n'est plus qu'une question de temps. Puis, s'adressant à ceux qui l'écoutaient, « Jeunes gens, et vous, hommes d'un âge mûr, que ceci vous serve de leçon. Nocet empta dolore voluptas. »